Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 37, édition spéciale sur la chaîne principale. Nous sommes le 8 novembre 2019 et on va démarrer tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui nous regardent que le vendredi sur la chaîne principale. Je rappelle le concept de l'émission. Le mug, c'est tous les jours sur la chaîne secondaire, sauf le vendredi où on est sur la chaîne principale Nowtech. Donc, si vous voulez suivre, on va dire, les mugs de la semaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire, donc Nowtech Live. Je vous demande juste une seconde. Comme je suis en plein salon de la photo et qu'on a amené énormément de matos là-bas, bien sûr, il me manque les trois quarts des trucs. Et il faut juste que je branche. Voilà. Ça, et ça ira mieux. Parce que vous aviez un petit retour son. Je règle ça. Et c'est bon. Moi, en tout cas, je suis en plein salon de la photo. Là, je suis pas au salon de la photo. Parce que il y a la connexion 4G. J'aurais pas fait trop confiance. Puis, de toute façon, ils sont pas encore ouverts. Donc, je vous fais le mug et après, je retourne au salon de la photo. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à venir nous voir. On en reparlera tout à l'heure. On va commencer tout de suite. Le kawa du vendredi est toujours un kawa un petit peu spécial. On va dire un double kawa, puisque je vais vous faire d'abord un récap des news de la semaine, ce que vous deviez savoir cette semaine. Et ensuite, on fera les petites news du vendredi, parce que la tech ne s'arrête pas le vendredi. On commence tout de suite le kawa. Et le Kawa, semaine chargée quand même, beaucoup de news tech cette semaine. Donc je vous fais un petit récap. Si vous voulez effectivement plus d'infos sur ce que je vous récapitule de la semaine, il y a les articles qui sont sur le feedboard. Il y a aussi les anciens mugs que vous pouvez aller écouter. La semaine a commencé effectivement sur les chapeaux de roue. On a appris que Google rachetait Fitbit. Et oui, ils ont racheté Fitbit pour développer leur propre montre connectée. C'est vrai que Google a un petit peu de retard. Wear OS est utilisé, mais pas par tout le monde. Par exemple, Samsung n'utilise pas Wear OS pour faire ses montres connectées. Google a une carte à jouer. On s'aperçoit avec l'Apple Watch qu'il y a quand même un marché, voire un très gros marché. Moi, je pense qu'il va y avoir des ventes assez fortes de montres connectées ce Noël. En tout cas, pour l'instant, l'Apple Watch a la grosse part du gâteau. Il est temps, effectivement, que ça se réveille chez Google. Ils ont dépensé 2,1 milliards de dollars pour racheter Fitbit, pour récupérer toutes les technologies hardware. Et du côté de chez Fitbit, le rachat par Google est plutôt bien reçu. C'est un partenariat idéal pour faire avancer notre mission. La communauté Fitbit, aujourd'hui, c'est 28 millions de clients à travers le monde. Donc, c'est une bonne manière pour Google, on va dire, de relancer son activité et de lancer une Google Watch bien connecté. L'écueil, c'est qu'effectivement, Google, surtout en ce moment, se traîne un peu cette réputation de recueillir un peu trop de data sur nous. La data santé, c'est une data extrêmement sensible. Les gens ont un petit peu peur. Donc, Google s'est fendu d'énormément de communication en expliquant bien que le data santé qui serait récupéré par les mondes ne serait pas utilisé à des fins commerciales. Après, à vous de voir si vous les croyez ou pas. À voir. Je pense que Google peut faire quelque chose de bien au niveau, comme ils ont fait avec le Pixel au niveau des smartphones. En tout cas, mettre un jalon dans la montre connectée pour dire, voilà, une montre connectée par Google, ça doit être ça. Parce qu'aujourd'hui, chacun y va un petit peu de sa technologie, quoi. Est-ce que j'ai testé la Montblanc connectée? Non. On continue, c'était également le lancement d'Apple TV. Apple TV, lancement, on va dire en demi-teinte. Des petits problèmes techniques. Nous, on a eu des problèmes pour accéder à Apple TV à travers l'application qu'il y a sur les Samsung TV, par exemple. On arrivait à y accéder qu'avec l'iPad et l'iPhone. Peu de séries. Marion vous a fait vraiment hier, oui, c'était hier, non, avant-hier. Dans le mug d'avant-hier, donc de mercredi, Marion vous a fait un gros récap, on va dire, des quatre séries majeures qu'il y a sur Apple TV. C'est en demi-teinte. Moi, j'ai plutôt bien aimé Mankind. Si ça se laisse regarder, le comble pour une série où ils sont tous aveugles. Après, le reste, c'est un peu de la daube personnelle. Alors, j'ai pas regardé Dickinson. Je dis rien sur Dickinson, j'ai pas regardé. J'ai commencé là le truc Friends 30 ans après, là, je sais plus comment ça s'appelle, Morning Show ou je sais pas quoi. Ça passera pas. Ça passera pas. Bon, après, Apple TV, c'est dans les chiffres, les gens ont moyennement suivi. Après, c'est que le lancement. C'est vrai qu'Apple a une offre assez forte, puisque tous ceux qui achètent des produits Apple, ils ont Apple TV pendant un an. Donc, il va y avoir quand même une base de données. Mais reste que leur offre, pour l'instant, en contenu, est relativement faible. En un week-end de binge-watching, vous avez fait le tour. Le morning show est vraiment très bon. Ah, d'accord. Bah Vincent, écoute, je respecte toutes les opinions. Apple toujours, les Apple Glass, a priori pour 2020. Moi, j'aurais misé pour 2021, mais a priori, ça devrait arriver en 2020, les Apple Glass. Rien n'est confirmé, hein, c'est que des rumeurs. Mais on sait que Apple aurait justement noué un partenariat avec Valve, Steam, pour développer l'interface des Apple Glass. Les Apple Glass ne seront pas des visières de réalité virtuelle, pour les gamers, ce genre de choses, mais bien des lunettes de réalité augmentée. On se souvient de l'échec magistral plutôt, des Google Glass. Apple a quand même une stratégie inverse. Apple a beaucoup travaillé sur le software. Le kit AR d'Apple est plus ou moins au point. Il manque aujourd'hui, effectivement, le device pour vraiment faire fonctionner ça. Toutes les démos de réalité augmentée qu'on a vues chez Apple sont alléchantes. Mais on se dit, je ne vais pas tenir mon smartphone ou mon iPad à bout de bras pour vous faire ça, mon bon Apple. Donc, sortez-moi des Apple Glass. Reste qu'il y a tout un tas de questions. Qu'est-ce que sera le design? Est-ce qu'il y aura des applications vraiment intéressantes en réalité augmentée? Est-ce que quand on a des lunettes de vue, on pourra quand même mettre des Apple Glass? Plein de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et voilà. Ce qu'on a appris également cette semaine, c'est le rebranding de Facebook. Facebook a un nouveau logo. Alors, pas de confusion. Le logo Facebook du réseau social reste le même. C'est le logo du groupe qui change, puisque Facebook est aujourd'hui un groupe. Instagram, WhatsApp, Facebook et d'autres choses. C'est un grand groupe de tech et ils veulent le faire savoir. Ils veulent le faire savoir pas juste pour vous faire plaisir, ils veulent le faire savoir aussi parce qu'ils ont la FTC au cul, hein, a priori une amende de 5 millions de dollars, pour justement ne pas être assez clair sur l'appartenance de certains produits à ce groupe. Aujourd'hui, la FTC américaine considère que, par exemple, trop peu de gens savent que Instagram, c'est le groupe Facebook, que WhatsApp, c'est le groupe Facebook. Et que toutes les données qui sont collectées par Instagram, WhatsApp ou Facebook tombent dans le même giron publicitaire, dans le même business model de Facebook. Donc, il est important pour Facebook, alors on va dire sur le côté positif des choses, que vous associez ce que vous aimez bien de leurs produits à un groupe unique, mais surtout pour des questions de loi antitrust et d'amende qui pourraient se prendre dans la gueule, de bien clarifier les choses pour les consommateurs. Quand vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook. Voilà, ça c'est, il y a Oculus, oui, également. Donc, il faut que les choses deviennent claires. Moi, je suppute même qu'au bout d'un moment, on va dire la marque Facebook, le réseau social Facebook, son image, je ne dis pas sa puissance, parce qu'aujourd'hui, ça reste le réseau social où il y a le plus de gens et qui recrute le plus. Facebook n'arrête pas de grossir. Mais l'image de marque de Facebook en a pris plein la gueule. Il n'est pas impossible, on va dire, dans les 5 ans à venir, que Facebook devienne plus un groupe, que le produit Facebook s'affaiblisse, que des produits comme Instagram, WhatsApp et peut-être de nouveaux produits autour de la réalité virtuelle et Oculus prennent la place, le business du groupe Facebook. C'est des choses qu'on verra, qui vivra, verra, comme on dit. Pour toutes les questions, I take and co. pour toutes les questions. À la fin de l'émission, il y a un corn fact, vous me posez des questions, je vous réponds. Pour l'instant, je continue dans les news, donc les news de la semaine, ce que vous deviez savoir cette semaine en tech. Également, Dropbox lance son service gratuit de transfert de fichiers. Là, vous allez me dire, mais Dropbox transfère déjà mes fichiers. Non, les gros fichiers. Là où avant vous utilisiez WeTransfer, eh bien maintenant vous allez pouvoir utiliser Dropbox Transfer. Je pense que les mecs de chez WeTransfer doivent tirer un peu la gueule que le nom soit aussi proche. Hein, petit procès qui pointerait son nez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça paraît assez logique. Aujourd'hui, Dropbox, qui est quand même énormément utilisé. D'ailleurs, j'ai vu les chiffres. Ils ont des très bons résultats, hein, Dropbox, cette année. Et désolé, hein, j'ai la voix qui se casse un petit peu. Hein, ceux qui me connaissent dans les salons savent que chaque salon, je perds ma voix. Même si cette année, j'ai un élixir magique pour ma voix. C'est pas complètement magique, on va dire. Donc, c'est assez logique, effectivement, que Dropbox ait un vrai concurrent à WeTransfer. Moi, je sais que nous, on a souvent des très, très gros fichiers à transférer. On utilise énormément WeTransfer. Pas impossible en tout cas qu'on essaye Dropbox Transfer. Pour l'instant, c'est gratuit, mais vous serez limité à 100 mégabits, un petit peu comme WeTransfer, même si la limite est plus haute. Votre lien de transfert dans le cadre de l'offre gratuite expirera après 3 ou 7 jours. Si vous êtes un utilisateur payant du plan Dropbox Professional, vous avez une limitation de 100 gigabits. Et une protection par mot de passe, une personnalisation du background au nom de votre marque, etc. Donc, ça peut être intéressant pour Dropbox de se renforcer dans les entreprises avec cette offre-là. Megabyte, oui, Baron Marutan. Attention aux majuscules, c'est toi qui vas te prendre un ban. Moi, personne ne peut me ban. Je suis complètement en roue libre. Ça vous fait chier, hein. Mais ouais, c'est comme ça. Vous n'avez qu'à faire des lives. Parlons un petit peu de YouTube, parlons un petit peu de vous. Le saviez-vous, vous avez accès maintenant, là, directement, aux comment ça s'appelle ? Les super stickers. Alors, super stickers, c'est pas votre ex super collante, hein, ou super collant. Les super stickers, c'est un nouveau moyen, effectivement, pour que vous fassiez des tips à vos créateurs préférés quand ils sont en live. Je dis ça, je dis rien. Avant, il y avait les super chats, il y a toujours les super chats, mais maintenant, vous allez pouvoir y ajouter des petits stickers. Aujourd'hui, il y a déjà des packs de 5 stickers, dont certains animés. Ça vous permet d'animer une chatroom. Votre super sticker s'affichera, mettant votre nom en avant avec les couleurs. Ça ressemble effectivement à ce qu'on connaît sur Twitch, hein. Petit à petit, YouTube est en train de développer des outils qu'on aime bien sur Twitch et qui sont très, très populaires. Sur Twitch. C'est vrai que YouTube est vraiment aujourd'hui dans la construction de tout un tas d'outils de monétisation pour que les créateurs soient un petit peu moins dépendants de la monétisation publicitaire. En tout cas, qu'ils aient plus ce choix. Moi, je ne fais qu'encourager ça. Je pense qu'aujourd'hui, et ça sera d'ailleurs le sujet de la tartine, puisqu'on va reparler, Guillaume en a parlé hier, mais on va reparler de la vidéo du joueur du grenier sur... On va dire YouTube et son avenir et vos usages de YouTube. Moi, je pense justement, ça sera un peu ma contradiction par rapport aux joueurs du grenier, que tout repose sur des business models, mais il ne tient finalement qu'à vous, les visionneurs, de soutenir, soit financièrement, soit en regardant, des chaînes qui sont moins populaires, moins sur un business model, faire le plus de vues possible et être soutenu par une communauté au lieu d'être soutenu par une audience. Et un produit comme les super stickers, c'est exactement ça. C'est pour, voilà, tiper régulièrement des créateurs. Merci Pascal M de nous faire une démonstration des super stickers. Donc ça va être intéressant. Moi, je pense, mais c'est vrai qu'après, les choses sont dans vos mains, hein, vos mains, les viewers. Est-ce qu'un autre YouTube est possible ? Ça sera le sujet de ma tartine tout à l'heure. Merci aussi Baron Marutan pour ton super sticker. C'est pas foufou, on est d'accord, hein, les illustres. Mais bon, ça anime un peu la chatroom, c'est rigolo. Moi, je trouve ça pas si mal que ça. Très rapidement, dans ce qu'il fallait savoir, cette semaine également, la Russie a développé son Runet, un Internet 100% russe, contrôlé par Moscou. Comme je plaisantais hier dans la chatroom, c'est Wikipravda. Désormais, tous les sites en .ru ou en .su pour Union soviétique, je ne savais pas qu'il y avait encore des sites Union soviétique, seront amenés à être gérés à la Russie. Alors, ça ne va pas être un truc qui va être mis en place maintenant. C'est une situation de repli. Si les choses se passent mal sur Internet, cas de conflit, cas de trucs, la Russie est en train de construire son propre Internet refermé. Alors, effectivement, ça va être un Internet hyper surveillé par le gouvernement. Ils ont confié la tâche, d'ailleurs, de la surveillance à un organe unique qui s'appelle du doux nom de Roskomnadzor. Ça, on dirait un espèce de supervien. Roskomnadzor. J'y arriverai pas. Merci Kylian pour ton super fan, number one fan. Je suis aussi super fan de toi, Kylian, que je ne connais pas, mais je me permets. Je suis un vendu. Bah ouais, je suis un youtubeur. Voilà, en tout cas, le gouvernement peut maintenant directement censurer du contenu ou même transformer l'Internet russe en système clos sans informer le public sur le fait et le pourquoi de ça. Ça, c'est ce qu'a dénoncé l'ONG Human Rights Watch dans un communiqué. En cas de cyberattaque massive, la Russie pourra choisir de basculer sur son Internet maison qui sera évidemment très très surveillé. Donc, on est en plein dans la logique du repli sur soi, hein, logique qui gouverne le monde en ce moment. C'est effrayant, hein, je suis le premier à, quand je me réveille, je me dis, mais est-ce que je suis dans un mauvais film d'anticipation des années 80 ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment ? Dans les choses plus positives, Canal+ serait en passe de prendre la diffusion exclusive de Disney Plus en France. Ça serait plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, Canal Plus a bien réussi son coup avec Netflix. Ça a bien relancé les ventes de Canal Plus. Et je pense qu'il y a un vrai avenir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans la chatroom. Mais aujourd'hui, la multiplication des abonnements psychologiquement, c'est... T'es là à te dire, putain, je mets 5 euros là, 10 euros là, machin. Ah, on me prend trop d'argent. Dans les faits, si vous êtes quelqu'un qui comptait vraiment votre argent, on dépense beaucoup moins d'argent qu'à l'époque où tout ça n'existait pas, même en abonnement. Souvenez-vous, l'époque où il fallait louer des cassettes, prendre Canal+, acheter des magazines, et regardez combien on dépensait à cette époque-là pour son temps libre et combien on dépense aujourd'hui. Je suis pas économiste, mais je pense par contre que le facteur psychologique de se dire je multiplie les abonnements et crée une friction qui on arrive à un point de saturation aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un vrai avenir à des offres bouquets. Je pense que les opérateurs, je comprends pas qu'ils ne développent pas des offres comme ça rapidement, hein, qu'on prenne voilà sa connexion chez Free plus Netflix plus Disney plus, qu'on puisse choisir à la limite les services qu'on veut. Eux, ils négocient les prix de gros avec Netflix et Disney plus, et puis voilà, on paye un certain prix pour ses loisirs connectés, et puis basta quoi. Des super abonnements. L'offre Canal Plus Netflix n'est pas du tout intéressante. Je doute que ça marche. Écoute, les premiers chiffres, je crois qu'ils ont doublé leurs abonnements Canal Plus depuis l'offre Netflix. Je sais que la pub a très très bien marché. À vérifier. On vérifiera dans quelques temps effectivement que ces offres fonctionnent. On reviendra sur Disney Plus tout à l'heure. Il y a une news fraîche d'aujourd'hui. Et je termine ce que vous deviez savoir cette semaine avec la sortie du Xiaomi Mi Note 10. Guillaume vous en a parlé en long et en large hier si vous voulez avoir plus de détails. C'est effectivement un smartphone, en tout cas sur le papier, qui a l'air intéressant, assez innovant en photo. Ils vont jusqu'à 100 millions de pixels. On se demande à quoi ça va servir. Moi, je ne l'ai pas testé. Je ne m'avancerai pas. On a énormément de couples capteurs-objectifs dessus, puisqu'on aura un capteur de 108 mégapixels avec une optique stabilisée équivalent 24 mm qui ouvre à f1.7. enfin à équivalent F1.7, enfin bon, vous me comprenez, un module x2 avec un capteur de 12 mégapixels et une optique équivalente à 41 mm à F2, un module x5 et capteur 5 mégapixels optique stabilisée ouvrant à F2, un module ultra grand angle avec un capteur de 20 mégapixels et une optique équivalente 16 mm ouvrant à F2.2 et un module macro, capteur de 2 mégapixels, une optique ouvrant à F2.4, donc pour faire des photos macro. Donc on a vraiment un appareil avec quasiment tout, qui couvre à peu près tous les besoins en longueur focale qu'on peut avoir sur un appareil photo. Intéressant à voir comment ces appareils, est-ce qu'ils donnent des photos de nature très très différente? C'est souvent le défaut des appareils multi-objectifs. Dans les bonnes nouvelles, il aura également une prise jack de 3,5 mm. Il sera équipé du Snapdragon 730G, qui est un petit peu inférieur quand même en puissance au Snapdragon 855. Un bon smartphone. Est-ce qu'on le testera sur la chaîne? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. En tout cas, sur le papier, ça a l'air d'être un smartphone assez intéressant. 108 mégapixels, c'est un bidonville, le capteur. Écoute, on sait que les mégapixels, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux avoir 1 milliard de mégapixels, si tu t'en sers mal, ça ne sert à rien. Et puis surtout, je n'ai pas la taille du capteur de 100 mégapixels. Il va falloir voir effectivement les performances en basse luminosité, puisque multiplier les mégapixels sur un capteur peut engendrer des performances assez moyennes en basse luminosité. Les capteurs ne sont pas assortis, Pascal. J'avoue que comme je suis en plein salon de la photo, j'ai regardé aucune vidéo, aucun test du Mi Note 10, mais vous deviez le savoir, c'est sorti cette semaine. Ça, c'était le condensé donc, des news de la semaine. On va passer aux news d'aujourd'hui, puisqu'on est vendredi et il se passe quand même des choses dans la tech. Et je parlais tout à l'heure de Disney+. Eh bien, ça y est, on a la date du lancement de Disney+ en France. Ça arrive le 31 mars en France. On n'est pas les seuls. Ça sera la date aussi où ça sera lancé au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. Le catalogue sera différent en fonction des pays. Donc, à n'en point douter, en France, il sera plus pauvre que les autres. Hein, la chronologie des médias, spécialité franco-française, fait que vous ne verrez pas des films très très récents ou des dessins animés très très récents sur Disney+. Reste à voir effectivement comment ils vont pouvoir en France, un peu comme fait Netflix, quoi, proposer quand même quelque chose d'intéressant malgré cette chronologie des médias qui pèse quand même sur la diffusion de contenu par d'autres moyens. On sait que ça va sortir le 12 novembre, donc entre il y aura novembre, décembre, janvier, février, mars, où on va pirater comme des gros malades pour pouvoir regarder The Mandalorian, la série Star Wars. En tout cas, je prévois un record absolu de téléchargement du premier épisode de cette série pour voir ce que ça vaut à travers le monde. Avec leur sortie décalée et leur multiplication des offres, on vous le dit, c'est hélas ce qui va arriver, mais je pense qu'il va y avoir un grand, grand retour du piratage de masse à cause de ces multi-offres. On ne va pas pouvoir s'abonner à tout. On voudra quand même regarder certaines séries chez les uns et chez les autres. Donc, ça va fumer. Kenobi aussi, ouais, mais Kenobi ne sera pas au lancement. La chronologie des médias, allez chercher sur Internet, hein, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, ça fait qu'en France, on n'a pas le droit d'offrir en vidéo à la demande un film, je crois que c'est 5 ans après ou 3 ans après, je ne sais plus. Bref, on a des règles très très restrictives censées protéger les salles de cinéma en France et la production française. Tout le monde est hypé juste par The Mandalorian parce que n'en a rien à faire du reste du catalogue, ça me tue. Oui et non, quand même, il y a quand même tout Marvel, il y a beaucoup de choses hein, chez Disney. Disney, c'est pas que des dessins animés hein, aujourd'hui. C'est 3 ans, 36 mois pour les films, voilà, pardon. Ce qui fait d'ailleurs, si vous avez déjà fait l'expérience que vous voyagez en Europe, vous avez votre catalogue Netflix en France, vous allez dans un autre pays, c'est pour ça que les VPN marchent aussi bien en ce moment, vous allez dans un autre pays, vous avez un catalogue avec des films beaucoup plus récents sur Netflix. Ouais, 3 ans, ça fait mal, effectivement. Netflix va mourir. C'est marrant, hein, comme vous voyez la concurrence. Pour vous, la concurrence, c'est forcément un combat de gladiateurs. Un seul doit survivre. Enfin non, c'est plutôt Highlander. Un seul restera. Non, non, je pense que c'est... Voyez le côté positif en tant que consommateur. Le fait que Netflix soit en concurrence, c'est une bonne chose. Ça va pousser Netflix à offrir des productions de meilleure qualité. Ça va être une bataille sur la qualité du contenu, ce qui va faire qu'on va choisir l'une ou l'autre des plateformes de VOD. Là où c'est chiant pour nous, c'est qu'effectivement, ça nous oblige à choisir des plateformes et certainement à faire du VOD jump. On prendra peut-être 4 mois Netflix, 3 mois Disney+, pour suivre certaines séries, binge-watcher des trucs, etc. Non, Netflix ne va pas mourir. D'ailleurs, Netflix est bien remonté en bourse. D'abord, Netflix, il a quand même une base d'utilisateurs qui est énorme. Les gens disent « Ouais, mais Netflix, le contenu, il est devenu un peu pourri. » En même temps, quand tu creuses un peu, ils sont quand même pas mal addicts à pas mal de séries qu'il y a sur Netflix, qui reviennent, Stranger Things, entre autres. Et d'autres séries. On sait que voilà, il y a des très bonnes productions de films. Moi, je trouve, je vous conseille de regarder le dernier film d'Olivier Stone sur Snowden sur Netflix. Moi, Netflix, je suis pas prêt à le lâcher personnellement. Mais même si je regarde un peu moins qu'avant Netflix et je choisis un petit peu plus ce que je regarde. Ça reste une offre, même si Disney, il y a le côté nouveau, j'ai plein de trucs à regarder. Disney, le catalogue, il n'est pas aussi gros hein, pour l'instant. Donc, la concurrence a du bon. La concurrence, les gladiateurs ne se tuaient pas. Tu as tout à fait raison, Horibat. Tu as dû regarder Nota Bene ou lire des livres d'histoire. C'est vrai que les gladiateurs se tuaient très rarement, en fait. Hein, le côté machin, thumbs up, thumbs down, c'est une invention plutôt hollywoodienne. Je crois plus en HBO Max que Disney. À voir. Bref, ça va être intéressant cette année pour le streaming. On continue sur les news du vendredi. Arrêtez tout, Google Stadia est disponible sur Android. Oui, vous allez pouvoir télécharger l'appli Google Stadia, mais en fait, on s'en fout parce que personne ne pourra l'activer. Hein. Donc, l'appli est déjà disponible sur Google Play. Vous pouvez la télécharger, mais tant que vous n'avez pas le code d'activation, ça ne sert absolument à rien. Le code d'activation, ça sera d'abord les gens, effectivement, qui ont la Founder Edition de Google Stadia qui pourront l'ouvrir. Ça va être effectivement une ouverture très graduelle de Google Stadia. Quand j'en entends certains qui me mettent dans les commentaires, ouais, mais Stadia, ça va être mieux, ça va être gratuit. Attention, ça va être gratuit dans un an. Ça va être gratuit en 1080p. Et on ne sait pas si même ça durera jusqu'à là. Cette sortie est très attendue parce que c'est soit Google va trébucher hein, sur Google Stadia. C'est, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Google Stadia, c'est l'offre console de Google. Sur le cloud, c'est-à-dire ça sera un système où vous pourrez acheter des jeux, des jeux PC qui auront été adaptés à la console Stadia, mais c'est une console sur le cloud auquel vous pourrez vous connecter pour jouer. Et c'est quelque part à la fois tout ça, mais que ça. Les gens qui confondent par exemple le Shadow PC et Stadia n'ont pas encore bien compris la différence entre les deux. Shadow PC, vous avez un vrai PC. Google Stadia, c'est une console virtuelle. Oui, il n'y aura aucun jeu gratuit, bien évidemment. Enfin, sur Shadow PC non plus. Voilà, donc ça ne sert à rien, mais l'appli est déjà disponible. La sortie, en tout cas pour ceux qui sont payés le Founder Pack, c'est bientôt. C'est normalement le 19, je crois, novembre. Même si, d'après les... 19 novembre, ça va être lancé. Je ne sais pas si... Moi, je l'ai commandé, hein, la Founder Edition, pour pouvoir rapidement, justement, vous faire un comparatif, peut-être, avec Shadow PC et tester un petit peu ça. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dirai ce que j'en pense. Dans les news d'aujourd'hui, Apple Pay, l'Union européenne aura reçu de nombreuses plaintes sur les pratiques d'Apple. Depuis quelques semaines, effectivement, Apple doit faire face à une enquête autour de leurs pratiques. autour de leur pratique autour d'Apple Pay. Effectivement, Margrethe Vestager, notre fameuse première dame du numérique pour l'Union européenne, a partagé ses fortes inquiétudes au sujet d'Apple Pay. Apparemment, elle aurait reçu de nombreuses plaintes de personnes ayant constaté qu'il devenait de plus en plus difficile de rivaliser sur le marché des paiements mobiles. Et elle s'est d'ailleurs adressée à quelques sociétés de vente en ligne afin de leur demander si elles avaient été obligées directement ou pas d'utiliser le service. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que Apple ferme volontairement sa puce NFC de l'iPhone pour bloquer de manière injustifiée les autres services de paiement. Apple justifie ça par la sécurité. Il dit, nous, on ne veut pas d'une puce NFC qui soit ouverte à tous les systèmes de paiement parce que ça a posé des problèmes de sécurité. Ce qui est, on va dire, légitime de la part d'Apple. Mais ça risque effectivement de poser un problème pour la concurrence. S'il n'y a que Apple Pay qui peut utiliser le système de puce NFC sécurisé pour ses paiements et que les autres ne peuvent pas, et que bah, Apple Pay, c'est Apple. Donc ça pose quand même un problème au niveau de la concurrence. Il va peut-être falloir que Apple revoie un petit peu sa copie et probablement paye une amende. Comme ils ne se gênent pas. En même temps, c'est pour ça que, oui, on a vite fait de dire, ah, Apple, quelle grosse enflure. En même temps, l'obsession d'Apple pour la sécurité, on peut être bien content de l'avoir aussi. Je ne suis pas persuadé que j'ai envie d'un iPhone où la puce NFC soit ouverte à tous les vents, personnellement. Après, je suis le premier à dire, la concurrence, il n'y a rien de mieux dans le monde. Pour les marchés en tout cas et pour les consommateurs. Donc effectivement, je suis fortement gêné si par ces contraintes de sécurité, Apple en gros en profite pour étouffer la concurrence au niveau des paiements mobiles. Ça, c'est pas une bonne chose. Apple restera toujours fermé au monde. C'est pas tout à fait vrai, Edmondson. Les temps ont changé. Quand tu t'aperçois qu'il y a une application Apple TV+ sur une télé Samsung, je n'étais pas sûr de voir ça de mon vivant. Non, Apple, au contraire, s'ouvre énormément en ce moment. Après, Apple essaye de faire très attention à qui utilise le data, comment il est utilisé. Bref, je vous ai fait toute une vidéo là-dessus. C'est effectivement un positionnement marketing d'Apple, cette sécurisation de nos données. Mais néanmoins, ils sont obligés de le faire vu que c'est leur positionnement. On va dire marketing. Abus de position dominante, effectivement. Moi, je sais que ouais, je suis un gros utilisateur d'Apple Pay hein, aujourd'hui. Donc, mais bon, on verra. Les choses vont se détricoter. Parlons un petit peu de YouTube. YouTube, la page d'accueil de YouTube va changer. Des vignettes plus grosses, des titres plus longs. Ça, mine de rien, c'est une bonne nouvelle. Parce que je vais pouvoir faire des jeux de mots plus sophistiqués dans mes titres. Là, tout le monde, oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Putain, il va nous sortir des titres de 3 lignes avec des jeux de mots du vieil oncle bourré, là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Bref, en tout cas, une lecture plus agréable, mais c'est peut-être pas le plus important. Ça, c'est des aspects cosmétiques. Le plus important, c'est que vous allez vraiment pouvoir personnaliser vos recommandations. Et ça, comme tout à l'heure, ça va nous amener au sujet de la tartine tout à l'heure. Peut-on changer YouTube? Et une première chose qui est intéressante dans cette nouvelle page d'accueil, c'est que dans les recommandations que YouTube vous fait, vous allez pouvoir vous dire, cette recommandation que tu m'as fait, YouTube, c'est de la merde. Je ne veux plus voir de vidéos de ce mec-là dans mes recommandations. Voilà. On le dit d'une manière plus polie, c'est qu'en gros, il vous suffira de faire un clic droit sur les 3 petits points d'une vidéo qui vous a été recommandée et de dire « Non, merci, je ne veux plus qu'on me recommande cette TV cancer ou cette émission cancer, ou, enfin bref, ce genre de YouTube que je n'aime pas. » Là où c'est important, et on va voir si les gens sont vraiment des grosses moules asthmatiques ou s'ils vont être actifs, c'est que ça peut être un début d'un certain nettoyage de YouTube. Si je suis le premier à dire qu'il y a des vidéos de merde, on ne peut pas s'empêcher de cliquer dessus. Parce qu'elles sont bien foutues en termes de clickbait, en termes de putaclic. On clique dessus, on le regrette instantanément, mais on clique dessus et du coup, ça encourage le créateur à continuer à sortir ce type de contenu. Est-ce que, bah alors je suis peut-être complètement utopiste, mais est-ce que les gens qui ont déjà du mal à mettre des thumbs up et des thumbs down vont faire l'effort de nettoyer leurs recommandations et donc d'envoyer à YouTube du data des chaînes qu'ils aiment et des chaînes qu'ils n'aiment pas avoir en recommandation? Et est-ce que du coup, ça induira que certains créateurs qui bénéficient aujourd'hui du côté facile d'un contenu un peu pipi-caca, hein, disons-le poliment, soient relégués finalement à être moins recommandés parce que les gens veulent moins les voir dans leur colonne de recommandations? C'est un vœu pieux. Je suis un utopiste. Je me dis que c'est à vous de créer le YouTube de demain. C'est pas à nous, les créateurs. C'est à vous. En choisissant ce que vous regardez, en choisissant ce que vous soutenez, en choisissant ce que vous voulez avoir recommandé dans vos colonnes, c'est vous qui allez façonner le YouTube de demain. Et c'est la grande différence avec la télévision. Mais je veux pas trop spoiler le sujet de la tartine. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, en tout cas, changement sur la page d'accueil de YouTube. Et dernière news qui m'a paru intéressante aujourd'hui, c'est la région PACA. Désastre pour la concentration, réseau saturé. Les tablettes dans les lycées ne font pas l'unanimité. Effectivement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est équipée depuis la rentrée d'un ambitieux programme de tablettes pour remplacer les livres. Les premiers résultats... Ce qui m'énerve dans ce genre d'article, c'est qu'on se concentre sur le côté négatif, finalement, de ces tablettes pour les lycéens. Et il n'y a pas grand-chose sur le positif. Manifestement, les choses n'ont pas été faites, à mon avis, avec du bon sens. On a filé à des lycéens des tablettes sans vraiment protéger ce qui allait être téléchargé dessus. Bien évidemment, hein, les lycéens ne vont pas télécharger en priorité leurs bouquins d'histoire, mais ils vont télécharger Netflix, des jeux, Snapchat, hein. Toutes ces conneries là, et regarder des lives à 8h du matin en cours, au lieu de lire leur livre d'histoire, hein, ça va pas du tout. Bref, le truc, à mon avis, a été fait dans le dépit du bon sens. On sait que dans certaines entreprises qui sont équipées d'iPads, de tablettes, il est tout à fait possible de limiter les usages et de limiter le type d'application qu'on peut télécharger d'une tablette. Si vous donnez à un lycéen une tablette en lui disant « tu mets ce que tu veux dessus », c'est sûr qu'il va pas mettre tout de suite hein, son livre d'histoire ou son livre de maths. Hein. Ça me paraît assez clair. Merde, j'ai perdu la chatroom. Ah, je vous vois plus. Ah, mon Dieu. Même si je vous lis plus beaucoup maintenant dans la première partie des news, votre présence est rassurante. Je vous ai retrouvé. Putain, tu m'as grillé. Je suis en cours, Edmondson. Et ouais, je te vois. Vous me voyez, mais moi aussi, je vous vois. Tous. Les 683 visionnages en cours, je sais ce que vous êtes. Tu peux refermer ton peignoir là, parce que il y a des trucs que j'ai pas envie de voir. N'importe quoi. Bref, également, les réseaux sont évidemment saturés. Vous imaginez bien que tous les lycéens qui regardent une série Netflix en même temps en cours, ça va saturer un petit peu les réseaux. Bref, on a quand même l'impression que le truc a été fait en dépit du bon sens. Il y a des programmes aujourd'hui pour gérer des flottes de tablettes. Si vous laissez comme ça un truc complètement open et lycéen, disciplinez-vous vous-même. Je veux pas être un vieux con réac à dire il faut un peu de discipline au lycée, mais c'est sûr que ça va être la fête au slip, quoi. Donc il y a rien de surprenant, rien de surprenant. J'ai géré une gestion de flotte d'iPad pour un lycée privé et l'App Store était limité. Oui, il y a des moyens très faciles. Moi, je me souviens, dans mon ancienne entreprise, on ne pouvait pas, en tout cas sur les Mac de l'entreprise, installer Netflix ou même YouTube. Bon, quand il y aura quelque chose de pertinent à dire, je reviendrai. Ah, d'accord, Paolo. Bah écoute, bonne journée à toi. Je ne suis pas très pertinent, hein, manifestement, pour Paolo. Voilà, en tout cas, pour les news du jour. Ça, c'était les news de vendredi, avec le rappel des news de la semaine. On va faire notre petit placement de notre sponsor préféré qui est juste derrière moi. Il est toujours là, c'est Shadow. Shadow, c'est le PC sur le cloud, le PC à puissance déportée. J'ai sorti il y a 2 semaines une vidéo sur les nouvelles offres Shadow que je vous invite à regarder. Si vous avez des questions sur les Shadow, et on m'en a posé beaucoup, le truc, c'est que j'ai déjà donné toutes les réponses dans mes vidéos précédentes sur les Shadow. Donc, j'ai pas vraiment le temps de répondre individuellement à tout le monde dans les questions sur Shadow. Donc, avant de me poser une question sur Shadow, allez regarder les anciennes vidéos. On répond à la plupart, même à toutes les questions que vous posez sur la sécurité, sur l'écologie, sur toutes ces choses-là autour du Shadow PC. Ou posez les questions à Shadow directement. Hein, ils se feront un plaisir de vous répondre. En tout cas, nous, le partenaire nous permet de vous offrir toutes les semaines 1 mois de Shadow gratuit. Et justement, roulement de tambour, aujourd'hui, c'est on désigne notre gagnant de la semaine. Il faut juste que je retrouve... Ah oui, ça va être sur mon ordinateur. Il faut que je retrouve le gagnant du jour. Et le gagnant du jour, j'ouvre son tweet. Et après, je vous dirai comment jouer pour la semaine prochaine. Le gagnant du jour, c'est Oshovan, qui nous dit « Je veux gagner un Shadow PC pour la planète et avoir la puissance d'un PC partout. Merci le mug Naotech. » Eh bien, écoute, tu as tout compris. Hein, tu as sorti tout l'argumentaire commercial de Shadow dans ton tweet. Donc, on est content de te faire gagner 1 mois de Shadow gratuit pour que tu puisses le tester ou l'offrir à quelqu'un hein, si tu as déjà un Shadow. Donc, comme Oshi, vous allez pouvoir vous jouer aussi la semaine prochaine. Il suffit de composer un tweet. Dans ce tweet, il faut que vous mettiez le hashtag ShadowPC, le hashtag LeMugNowTech et que vous nous expliquiez pourquoi vous voulez gagner 1 mois gratuit, de ShadowPC et vous aurez une chance de le gagner le vendredi. Je reviens à la chatroom que je n'avais plus. Voilà, en tout cas, on va pouvoir passer... Waouh, 8h41, il va falloir booster un petit peu. On va passer à la tartine, on va parler, même si Guillaume en a déjà parlé hier, on va reparler de la vidéo du joueur du grenier. YouTube m'ennuie. Je pense qu'un abcès a été percé, que je trouve ça super intéressant. Moi, ça fait longtemps que je parle de certaines choses sur le YouTube de demain. Je suis d'accord avec certaines analyses du joueur du grenier, je suis pas d'accord avec d'autres. Vous aussi, vous avez certainement des choses à exprimer et on va le faire dans la tartine. La tartine du jour, c'est effectivement la vidéo du joueur du grenier. YouTube m'ennuie. Je pense que la plupart, je ne sais pas, est-ce que tout le monde l'a vue ? Il y en a qui ne l'ont pas encore vue. Je vous conseille de la regarder. Elle est intéressante. Je refais une tartine, même si Guillaume a déjà fait une tartine dessus. Parce que d'abord, je ne suis pas d'accord avec certains trucs que Guillaume a dit hier. Hein, c'est la liberté dans le mug. Les présentateurs ne sont pas forcément d'accord entre eux. Moi, je n'avais pas vu la vidéo, mais je l'ai regardée hier soir. J'ai re-regardé ce matin sur le joueur du grenier. Je suis d'accord. Je suis d'autant plus d'accord qu'il y a certains points, si vous êtes un habitué de l'émission Le Mug et de la chaîne Naotech, vous savez que c'est des points que j'ai déjà abordés. Sur aujourd'hui, une certaine uniformisation de la création du contenu sur YouTube, ça fait 2 ans que je vous dis YouTube se TF1ise, c'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, les YouTubeurs redécouvrent, et ça, son analyse est très bonne. Ces YouTubeurs qui croient inventer des nouvelles formules magiques, ils font Interville des années 60 à la télé. Je ne veux pas dire que la télé a tout inventé. C'est là où je trouve que son analyse est limitée. Quand il dit YouTube, finalement, ça n'est que la télé avec moins de moyens, je comprends ce qu'il veut dire, mais je vais en arriver à mon analyse finale. Je pense que c'est une vision des choses, un ras-le-bol exprimé, mais pas assez ouvert sur l'avenir et les vraies différences quand même qu'il y a entre YouTube et la télé. Là où je partage complètement son analyse, et ce que certains n'ont pas bien compris peut-être dans sa vidéo, c'est que sa vidéo parle du YouTube lol, le YouTube loisir, les gros chiffres de YouTube, hein, la Redbox, McFly et Carlito. Je les connais pas beaucoup parce que moi, c'est du contenu que je ne regarde pas. Je sais que Guillaume connaît bien mieux ce monde-là que moi parce que moi, c'est un contenu que je ne regarde pas. J'ai essayé, hein, mais c'est pas un contenu auquel je m'abonne et qui me plaît. Donc, je ne les regarde pas et je les regarde parfois pour comprendre le phénomène. Mais c'est pas un contenu régulier auquel je suis abonné. Et il ne parle que de ce YouTube-là. Là où je trouve... Alors, je comprends également ce qu'il a voulu dire quand il dit « Oui, mais je sais, on va me dire qu'il y a des chaînes qui font 100 000 vues, ce qui est déjà bien. Par exemple, nous, une vidéo qui fait 100 000 vues, on est content. Hein, on n'est pas une très, très grosse chaîne sur Naotech. C'est un faux argument que les chaînes, les petites chaînes en gros ont de la liberté d'expression, il y a que les grosses chaînes qui sont devenues complètement commerciales et tout. Il a raison dans le sens, et ça je suis aussi pessimiste que lui, sur le fait qu'il faut arrêter de vous leurrer le public. Faire du YouTube, c'est un business. Ça coûte cher de faire des vidéos aujourd'hui, surtout que la qualité est quand même franchement montée de plusieurs crans depuis quelques années. Aujourd'hui, faire une chaîne YouTube seule devient de plus en plus compliqué. On a besoin d'unités de production, on a besoin d'une équipe commerciale, des gens à payer. Donc, faut pas voir que aussi le côté fric, c'est des youtubeurs qui s'en mettent plein les fouilles. Non, les mecs de la Redbox, je sais pas combien ils ont créé d'emplois, mais ils ont créé des putains d'emplois. Donc, avant de leur cracher dessus et de dire ces mecs-là ne pensent qu'au fric, ces mecs-là, ils doivent aussi payer des salaires en fin de mois. Et ils ont créé de l'emploi. Donc, c'est là où il faut raison garder. Mais là où il a complètement raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est un business. Ça l'a pas toujours été, mais aujourd'hui, c'est un vrai business. Quand tu veux en vivre, il y a toujours une place pour un YouTube amateur. Mais si tu veux vraiment être dans le game, il y a un moment, il y a une professionnalisation du YouTube. Le YouTube nostalgique du mec avec sa webcam qui, après sa journée de boulot, faisait des émissions et c'était cool, c'est triste. Peut-être à dire, mais c'est fini, ou c'est globalement fini. Il y aura toujours de la place, c'est là où le discours faut le nuancer, il y aura toujours de la place. Mais regardez le nombre de gens qui font du YouTube en amateur, qui sont obligés de s'arrêter au bout d'un moment, parce que c'est hyper chronophage, et ils n'arrivent pas à trouver un business model. Là où je pense, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et après je vais lire un peu vos commentaires, je pense que ce qui manque dans la vidéo du joueur du grenier, c'est probablement, en tout cas pour moi, et encore une fois, je suis peut-être complètement utopiste, mais pour moi, la possibilité, aujourd'hui, je suis d'accord avec son analyse. YouTube est dans la merde, et la merde se vend bien, et beaucoup de gens regardent la merde de YouTube. Et c'est très dur de faire autre chose que de la merde sur YouTube si on veut en vivre. Je suis d'accord avec son analyse. Mais je pense que ce n'est qu'une étape. C'est là où je ne partage pas son analyse en disant « YouTube est devenu la télé, et donc c'est mort, il n'y aura plus que de la merde ». Non, je pense qu'on est à un point d'achoppement, et que le YouTube de demain, c'est vous qui allez le faire. C'est ce que je dis, c'est un peu ma phrase provoque, mais ce n'est pas les créateurs qui vont faire le YouTube de demain, c'est vous. À fur et à mesure que vous aurez plus d'outils de choix et que, surtout, vous pourrez aussi décider de ce que vous regardez et de ce que vous ne regardez pas, vous allez façonner, finalement, ce que les créateurs font. Pourquoi les créateurs font un certain type de vidéo en ce moment? C'est parce que les gens regardent ça et que les gens cliquent dessus. Mais le problème, c'est que c'est devenu une spirale. Ce contenu-là étant recommandé automatiquement, les gens ne regardent plus que ça. Et finalement, on devient dans une bulle où il n'y a plus que de l'interville, comme il dit, dans le YouTube de divertissement. C'est là où je crois qu'il va falloir vous réveiller et faire passer le message aux gens de vous réveiller. Ça fait plusieurs mois que je vous dis qu'une vue, c'est une voix. Arrêtez d'être des experts en merdologie, comme le dirait... Blanche Gardin, si vous considérez qu'un contenu est merdique sur YouTube, arrêtez de le regarder. N'allez pas mettre des thumbs down sur les contenus de merde, ça les aide autant que les thumbs up. boycottez les chaînes que vous estimez cancérigènes pour vous, que vous ne les regardez pas, vous les encouragez à faire ce type de contenu. Et c'est exactement comme quand vous regardez de la télé de merde en disant hey, c'est de la merde, hein. Ah ouais, c'est de la merde, hein. Mais vous le regardez quand même, vous ne faites qu'encourager la merde. Donc, sélectionnez vos chaînes. Et je mets même mes couilles sur le bio. Si vous trouvez que ma chaîne, je fais de la merde, désabonnez-vous de ma chaîne. Ne regardez plus mon contenu. Sanctionnez-moi. Sanctionnez les YouTubeurs que vous trouvez que leur contenu est toxique ou qu'ils tirent l'ensemble de YouTube vers le bas. Sélectionnez avec soin vos chaînes. Moi, je vous propose même le challenge ce mois-ci. C'est que vous preniez tous vos abonnements YouTube, vous désabonnez tout le monde et vous refaites vos abonnements. Et vous vous donnez même un chiffre limite, je m'abonne à tant de chaînes. Et que vous soyez proactif sur les recommandations de YouTube, que vous commenciez à sélectionner les chaînes que YouTube vous recommande ou le contenu que YouTube vous recommande. Arrêtez d'être passif comme les générations de moules anémiques qui ont été élevées à la télé où on regardait bêtement. Et c'est là où je trouve qu'il manque vraiment un truc dans son analyse. C'est que la télé, c'est 24 heures de programme, pas une seconde de plus. Et la concurrence entre les télés était féroce parce qu'elle se battait sur ces 24 heures de disponibilité de votre attention. Et il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée. On est bien d'accord là-dessus. YouTube, c'est la possibilité de créer chaque minute 60 000 heures de contenu. Donc, oui, il y a de la concurrence, mais elle est complètement différente. On ne se bat pas pour des créneaux horaires pour votre attention. On se bat pour votre attention, mais finalement, avec beaucoup plus de liberté. Donc, je continue à croire que YouTube est quand même un terreau pour une créativité et trouver des formules. Le truc est, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, le YouTube français, a trouvé les formules faciles que la télé a déjà inventées pour faire beaucoup d'audience. Mais, et j'espère, ça ne s'arrêtera pas là. Justement, avec votre soutien, en soutenant des chaînes plus créatives ou qui innovent avec des business models qui ne sont pas uniquement publicitaires, que vous souteniez ces chaînes-là va peut-être permettre effectivement à des chaînes plus créatives, plus intéressantes. Et on le voit quand même, je reprends Nota Bene, enfin tout ce qui est les vulgarisateurs, c'est un format par exemple qui est très peu utilisé par la télé, parce que ça ne rassemble pas assez de monde. Et c'est quand même des chaînes qui arrivent à en vivre, à créer de l'emploi autour de leur contenu. Bref, il y a un meilleur futur possible sur YouTube, mais aujourd'hui, ça dépend de vous. Je me retourne vers la chatroom et je lis un petit peu vos commentaires. Les grands vont manger les petits. C'est là encore, c'est à vous de décider. Je ne crois pas... voilà, ça va vite les commentaires. Je trouve que dans ton analyse, tu as oublié la notion d'âge. Les chaînes qui cartonnent sont suivies par une majorité de très jeunes. C'est vrai, c'est un état de fait du YouTube français aujourd'hui. C'est que la moyenne d'âge, c'est entre 7... Moi, je suis très provoque, mais j'en suis persuadé. La grosse audience de YouTube aujourd'hui n'a pas plus de 13 ans. Et je le vois dans les stats. Je le vois, je le dis, je pense qu'il y a un gros problème d'âge. Mais là aussi, c'est à vous de plus regarder YouTube. Et de sélectionner ce que vous voulez regarder. Ça dépend surtout de l'audience de YouTube qui est majoritairement moins de 13 ans. Aux États-Unis, par exemple, bon, alors, il y a quand même une très... De toute façon, YouTube, c'est un état de fait. C'est regardé par les très jeunes. C'est une première chose. Mais quand tu regardes, par exemple, le contenu américain, moi, c'est quelque chose que j'appelle normal, hein, je suis un peu vieux, mais que j'appelle en France, c'est la diversité de la représentation. Déjà, il y a trop peu de contenu féminin autre que des contenus, on va dire, traditionnellement féminins sur YouTube. Il y a trop peu de tranches d'âge. Pour l'instant, il y a trop de YouTubeurs jeunes et très jeunes. Qui, en plus, bon, là, je rentre dans des trucs, mais qui ont des impératifs économiques, parce que pour un YouTuber très jeune, il n'a pas à payer son loyer, etc. Donc, pour lui, finalement, l'économie de YouTube n'est pas aussi importante. Je m'arrête là dans cette analyse. Mais juste pour dire, la variété d'âge, par exemple, elle est beaucoup plus représentée aux États-Unis, dans les créateurs YouTube. Tout dépend de ce qu'on regarde, mais j'aime bien voir plein de choses différentes qui m'intéressent. C'est très bien, mais il y a un jugement critique et surtout, n'oubliez pas, une vue, c'est une voix. Chaque fois que vous regardez le contenu de quelqu'un, vous lui apportez une caution. Donc si vous n'aimez pas quelqu'un, ou que vous estimez que son contenu n'est pas bon, arrêtez de le regarder, arrêtez de cliquer. Vous n'êtes pas des merdologues. Le problème, c'est ça, tout est fait pour les gosses, du coup, la qualité, on prend un coup. Bah, je suis pas d'accord, soutenez plus les chaînes qui sont pas faites pour les gosses. On va pas dire, par exemple, que Nota Bene est fait pour les gosses. Je viens d'arriver, c'est en rapport avec la vidéo. Oui, on parle de la vidéo du joueur du grenier sur YouTube. Et je veux dire, ma réponse à... Et encore une fois, hein, je partage énormément son analyse. Même je m'y retrouve... c'est des choses que je vous dis dans le mug depuis longtemps. Mais moi, ce que je dis, en plus de ce que dit le joueur du grenier, c'est que le YouTube de demain, c'est vous qui allez décider de ce que ça va être. Et c'est pas les créateurs. Et si on est effectivement merdologue, on fait comment? Bah, t'arrêtes YouTube. Les merdologues, on n'en veut plus. Oui, exactement. Bah, David vous montre, par exemple, soutenir un créateur financièrement, c'est lui permettre d'être moins soumis à la dictature de l'audience et de plus se reposer sur une communauté. Donc un super chat, le moindre super chat, c'est une manière de soutenir un créateur et de le rendre plus libre par rapport à l'audience. Ça, je suis pas sûr que tout le monde comprenne comment fonctionne YouTube. Si les chaînes YouTube se battent pour avoir un maximum de vues, c'est qu'aujourd'hui, le business model publicitaire de YouTube oblige à une stratégie d'un maximum d'audience, comme le ferait une télé dont le business model est basé sur la publicité. Il y a d'autres business models possibles, même s'ils sont plus compliqués, c'est d'avoir une stratégie comme j'ai moi, basée sur la communauté. Une partie de mon chiffre d'affaires pour Naotech est basée sur les contributeurs, est basée sur les super stickers, sur les super chats, sur effectivement même une partie de bénévolat. Ça me permet, ça ne veut pas dire que je ne prends pas de la pub et que je n'ai pas des sponsors, mais ça me permet d'être plus libre par rapport au business model de « il faut faire à tout prix des vues ». J'ai l'impression qu'on trouve de tout sur YouTube. J'arrive pas à trouver des chaînes très intéressantes. Il n'y a pas un YouTube, mais plein. Effectivement, YouTube n'est qu'un média. Mais après, on parle de rendre des chaînes intéressantes puissantes. Non, architecte, c'est un peu le problème. De penser que si le contenu de merde marche, c'est parce que les gens veulent regarder uniquement de la merde, c'est sous-estimer un effet d'entraînement, et notamment avec les recommandations. Si des gens regardent du contenu de merde et qu'il a un certain succès, YouTube va avoir tendance à recommander ce contenu de merde, qui, et comme le contenu de merde, une des définitions du contenu de merde, c'est que c'est un contenu facile à regarder, on a envie de cliquer dessus, c'est la fin de journée, on a le cerveau en marmelade, on préfère regarder un truc facile... Encore une fois, je ne condamne pas, je vous dis juste de ne pas regarder que ça. Tu vas créer un effet d'entraînement dans les recommandations, ce qui fait qu'il n'y a plus que la merde qui émerge. Salut Technique Savoir, merci pour ton super chat. À demain au Salon de la Photo. Ben non, c'est pas qu'un cas particulier, là tu parles de « on refait le Mac ». Je vous ai jamais publié mes chiffres, mais moi je partage, on va dire, le même problème qui fait que nos vidéos chez Naotech ne seront jamais en tendance, c'est que nous, en fait, les moins de 17 ans ne nous regardent pas du tout, je suis même à moins d'1%, hein. Sur certaines vidéos, les moins de 17 ans ne regardent pas, je suis trop vieux pour eux, c'est normal, ne regardent pas du tout mon contenu. Et en ça, par exemple, une vidéo Naotech, la probabilité qu'un jour on ait une vidéo en tendance, c'est quasi nul. Selon la manière que YouTube a de proposer des vidéos en tendance, nous, le fait qu'on ait un creux aussi profond sur une tranche d'âge nous pénalise énormément dans les recommandations. Est-ce que tu touches l'intégralité du Super Chat? Non, on touche aucune intégralité. C'est un revenu, donc déjà, on paye des impôts. Ensuite, effectivement, Apple prend un pourcentage sur les Super Chats. En fait, les Super Chats sont mélangés aux revenus publicitaires hein, dans la facturation Google. Merci, NetBeach, pour ton Super Chat. Je ne peux pas remercier tous les stickers et tous les Super Chats pendant l'émission, parce que sinon, le rythme serait un peu lent et ça serait désagréable pour les gens qui nous regardent en replay. Peut-être poster des vidéos dans une plateforme de contenu plus adulte, une plateforme à créer. Oui, mais le tutoriel, ça, c'est des vœux pieux. La plateforme avec la puissance de YouTube. Tout le monde nous dit ça, mais vous n'avez qu'à publier ailleurs si vous n'êtes pas content de YouTube. Ouais, mais il n'y a pas d'ailleurs que YouTube. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Et ça, c'est malsain. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est malsain. Mais vous nous dites, faites-le. Ben non, on ne va pas créer. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas capable de créer une plateforme. Connais-tu l'âge de tes viewers? Oui, on connaît très, très précisément l'âge moyen de nos viewers. Moi, ma moyenne, elle est vers les 25-30 ans de mes viewers, ce qui est très âgé hein, pour du contenu YouTube. Ce qui, et c'est là où je pense qu'il y a quand même des solutions possibles. Moi, au début, ça m'a beaucoup pénalisé, mais ça me permet aujourd'hui d'être abordé par des marques que cette tranche d'âge-là intéresse et qui ne veulent pas faire des pubs pour enfants. Voilà. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir finalement un contenu un peu de niche, un peu ciblé, catégorisé, quand les annonceurs vont comprendre que cette catégorisation du public peut permettre de faire de la pub plus ciblée, donc avec moins de déperdition publicitaire. Il est 9h, mais je trouve que c'est un débat hyper intéressant. On ne peut que quand même remercier le joueur du grenier d'avoir jeté un pavé dans la mare. On est nombreux à l'avoir fait, hein. Je me ramène pas la couverture à moi, mais j'ai l'impression quand même que ça fait longtemps que je vous parle de ce phénomène-là. Mais c'est vrai que je n'ai pas la portée d'un joueur du grenier et que lui fasse cette vidéo et que cette vidéo soit numéro 2 en tendance, va crever l'abcès, va ouvrir le dialogue et c'est le message que je veux apporter moi à ce dialogue. Le futur de YouTube, c'est vous et c'est pas les créateurs. C'est vos décisions sur ce que vous regardez qui vont créer le YouTube de demain. Donc décidez, choisissez, parlez-en autour de vous de ce qu'il faut regarder sur YouTube, le bouche à oreille, ça reste très puissant. Bref, à vous de façonner le YouTube de demain. Et arrêtez de regarder du contenu de merde. Vous n'êtes pas des merdologues. On va passer à la dernière rubrique de l'émission. Il va falloir faire vite. Ça va être des cornes fac. Vous allez pouvoir me poser tout un tas de questions. Alors, je vois des derniers commentaires hein, sur le débat qu'on a eu. Je sais qu'il y a des gens très jeunes qui nous regardent, et d'ailleurs, je leur fais plein de bisous, hein, et qu'il n'y a pas que des gens qui regardent du contenu débile, même quand ils ont 7 ans. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. C'est de qui, ça? Le cidre. Bref, tout ça pour dire, je sais, je vous parlais de la moyenne d'âge de la chaîne, mais on est tout public. Bon, c'est vrai que moi, je dis un peu beaucoup de gros mots, donc il faut peut-être éviter pour les très, très jeunes. Mais sinon, oui, on a plutôt un contenu pour tous les publics. Allez, je vais prendre vos questions. J'ai pas l'impression qu'il y a de questions platinium, pas de questions platinium. Très intéressant ce débat. Le sujet peut paraître chiant, tu l'as rendu intéressant. Merci Jérôme. Ouais, on en reparlera. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Non, désolé, le CID, c'est... aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, c'est bien dans le CID. Ou alors, vous voyez, moi, j'ai pas besoin de Wikipédia, je suis un vieux. On n'avait pas Wikipédia. Mais je sais plus si c'est dans le CID. Aux âmes bien-nées, la valeur... c'est peut-être pas dans le CID, ouais. As-tu vu et que penses-tu d'El Casino sur Netflix? J'ai pas vu. Que penses-tu du Mavic Air? Que c'est un drone et que je peux pas le tester à Paris, c'est tout ce que j'en pense. Gimbal ou Edelkrone? Alors, il y a des gens qui n'ont pas bien compris la véritable différence entre un gimbal et un Edelkrone. L'Edelkrone, là où ça a beaucoup de sens, c'est que ça permet de faire des mouvements de caméra motorisés, reproduisibles. Ce qui est impossible avec un gimbal. Et que, c'est ça que vous n'avez pas compris, c'est qu'un mouvement de caméra motorisé et reproduisible va vous permettre de faire un certain nombre d'effets visuels. Parce que votre caméra aura exactement la même trajectoire. Du coup, par exemple, vous pourrez changer un objet sur la trajectoire et au montage, faire des objets qui apparaissent dans un mouvement de caméra. Ça, avec un gimbal, c'est impossible, puisque les gestes sont quand même plus manuels et vous n'avez pas la précision d'un robot dans la reproductibilité du plan. Après, le gimbal va être beaucoup plus run and gun. Installer un Edelgrun, c'est quand même sortir de la machinerie, même s'ils l'ont simplifié. Donc en fait, les deux sont deux outils complètement différents. J'ai envie de vous dire, ça dépend complètement du type de contenu que vous comptez faire, si c'est plutôt un Edelgrun ou un gimbal qu'il vous faut. L'audience de l'émission du matin, elle a augmenté depuis le passage à l'eMug. Oui, et notamment l'audience en audio. Et ça, ça a été quand même la bonne idée. Hein. C'est de faire une émission qui, à l'origine, était une émission uniquement tournée sur la formule live d'interaction avec une chatroom. Je sais qu'on a moins d'interaction avec la chatroom, mais l'émission est plus agréable à écouter en audio et en replay. Et du coup, nos chiffres en replay et en, notamment en audio replay grimpent beaucoup en ce moment. Oui, c'est dans le CID. Ok, bah voilà, ma culture, je ne l'ai pas complètement perdue. Wikikenborg. À quoi ça sert le salon de la photo? Avoir des youtubeurs photos dans un stand trop grand pour eux. Non, le salon de la photo, c'est un bon moyen de prendre du matos en main, de tester des objectifs. C'est pour ça que je vous encourage à y aller. Le matos est là, c'est un salon de vente. Hein. Je parle en tout cas de l'étage des constructeurs. C'est une bonne occasion de tester du matériel. Vous pouvez amener votre carte SD, prendre des photos avec du matos. C'est, y a tous les appareils du monde, tous les objectifs. C'est quand même super intéressant. L'Apple TV a déjà été évoqué. Ouais, c'était en début d'émission. Qu'est-ce que tu nous demandes sur l'Apple TV? J'ai mon essai d'un an gratuit. Pour le moment, je ne suis pas convaincu du peu. Bah, regarde le mug de mercredi, celui qui a été fait par Marion. Elle a fait une analyse très précise du contenu d'Apple TV. On ne peut pas faire un financement participatif pour une version audio. Mais elle existe, hein, la version audio. Hein, c'est gratuit, hein, Michael. Merde, j'ai perdu vos questions. Ça va trop vite. Avoir un pin chez F1.4. Exactement. F1.4. Ouais, on va l'appeler comme ça, F1.4. Oui, si vous venez sur le stand YouTube, des YouTubers sur le salon de la photo, il y a des pins de Sébastien Roignan. Et il n'y a pas de pins Nowtech. On ne les en a jamais fait. Est-ce que j'ai pu tester le trépied? Je l'ai déployé, je l'ai testé. Pas vraiment testé. Très honnêtement, je vais vous dire, aujourd'hui, il y a tellement de monde maintenant qui me connaît au salon de la photo et j'ai beau vous dire, venez pas nous voir pendant qu'on bosse. Je n'ai rien vu du salon de la photo hier. Je n'ai plus le temps d'aller sur les stands. Je suis bloqué toutes les 5 minutes. C'est pas du tout un reproche, hein, ça me fait hyper plaisir. Mais la chaîne a changé, vous êtes quand même beaucoup plus. Vous pouvez pas imaginer à quel point la chaîne a changé. Je pense que la différence entre l'époque où on avait 10 000 abonnés et maintenant où on en a 200 000, c'est des changements très très importants. Ce qui fait que je pense que le salon de la photo pour moi maintenant ne va plus être l'endroit où je vais chercher des infos sur les photos, mais l'endroit où je vous rencontre. Et puis pour les infos sur les photos, ça sera plus tard. Oui, je vais y être ce matin, à la fin du mug, je prends le métro et je vais au salon de la photo. Pour rappel, oui, il y a des bonnes masterclass. Pour rappel, sur le stand YouTubeur, hein, on n'est pas que des branlots, il y a des conférences aussi. Je vais vous lire d'ailleurs le programme des conférences ce matin. Et n'oubliez pas aussi aujourd'hui qu'à 16h, je serai sur le stand Nikon pour vous parler de notre expérience avec les Nikon Z6. Et sinon, sur le stand des YouTubeurs, le programme aujourd'hui, on est vendredi. À 11h, vous avez Sébastien Roignan de F1.4, c'est améliorer son business grâce à une borne photo. À midi, vous avez les secrets de tournage d'Olivier Schmitt. À 13h, vous avez comment trouver des spots photo nature par Adrien Plaude. C'est bien ça, Plaude. Des Explorers. À 14h, 2 semaines de shooting extrême en Namibie avec Emmanuel Pampuri. À 15h, vous avez de la contrainte naît la créativité, une de mes phrases préférées, par Olivier Schmitt et Paul de la vidéo tout simplement. Et à 17h, on fait notre meet-up général. Donc à 17h, si vous voulez venir me parler, venez plutôt à 17h sur le stand des YouTubeurs au salon de la photo. Quel est le meilleur photographe du marché, le meilleur photophone du marché en ce moment d'après vous? Je ne réponds plus à ces questions. Qu'est-ce qui est le meilleur? Ça n'existe pas. Le meilleur, c'est celui qui vous va. Il n'y a pas de meilleur photophone sur le marché. Voilà. Il n'y a pas de meilleur appareil photo sur le marché. Il n'y a pas de meilleure caméra sur le marché. La meilleure caméra, c'est celle qui tirera par rapport à ce que tu produis. Le meilleur smartphone, photophone, sera celui qui tirera par rapport à ton budget. Shadow Ghost marche vraiment parfaitement bien. Écoute, moi, ce que je dis sur mon Shadow PC, je l'utilise, alors pas en ce moment, parce que j'ai pas le temps, mais je fais régulièrement 3 petites parties d'Overwatch. Donc, quasiment tous les jours, j'allume mon Shadow PC. J'ai parfois des pannes. De mon analyse des 2 ans qui se sont passés avec Shadow, c'est que quand j'ai un problème pour me connecter à mon Shadow, 80% du temps, c'est un problème dans mon opérateur. D'autres problèmes que j'ai eus, c'est avec Windows. Pas mon Shadow PC, c'est Windows qui plante. Et je dirais que oui, il y a 5% de problèmes de connexion parfois avec Shadow de leur fait. Mais en fait, c'est très peu. Et je n'ai pas des chiffres exacts, mais globalement, j'ai moins de pannes avec mon Shadow PC qu'à l'époque où j'avais un PC en dur. Alors, c'est vrai que j'avais tendance à un peu à bidouiller, à installer des drivers et tout. Donc, mon Windows était notoirement instable. Mais moi, j'ai des souvenirs comme ça de soirées passées, non pas à jouer, mais à réparer mon PC. Bon, bah, ce genre de choses peut arriver avec le Shadow PC. Ça fait bien, bien longtemps que j'ai pas eu une panne qui m'a empêché d'accéder à mon Shadow PC pendant plus d'une heure, par exemple. Parce que la hotline, maintenant, elle est très réactive. Ils me font des hard boot quand j'ai besoin d'un hard boot sur mon Shadow PC. Là-dessus, j'ai plus trop de problèmes, quoi. Vous avez, ouais, manifestement, vous avez un débit vidéo là qui est dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Ma connexion est aux fraises. De toute façon, il est 9h11, il est largement temps que je vous quitte. Je vais être en retard sur le salon de la photo, surtout que j'ai des trucs à préparer ici. Je vous retrouve pour ceux qui peuvent venir sur le salon de la photo. Je vous fais des gros bisous. Une info très importante, il n'y aura pas de mug lundi. C'est un jour férié et en plus, je suis au salon de la photo. Et il ne faut pas que je tire trop sur la corde parce que là, je suis déjà très fatigué. Donc, désolé, mais lundi, il n'y aura pas de mug. On reprendra le mug mardi. Je vous fais des gros, gros bisous. Passez un très bon week-end. J'espère vous voir nombreux au meet-up qu'on fait samedi soir dans un bar à côté de la gare du Nord. Allez vous inscrire dans le groupe Facebook de Nowtech. Gros bisous. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. Ciao tout le monde. Ah merde. Ah si, c'est bon. Désolé, j'ai eu un bug.